La forêt en France, elle couvre 31% du territoire, c'est-à-dire 17 millions d'hectares. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une partie de forêt qui est dans les Dom-Tom et en partie en Guyane. Là, il y a aussi 8 millions d'hectares. On a une bonne partie de cette forêt qui est relativement nouvelle et qui n'existait pas il y a encore 150 ans. La forêt française, elle a été presque doublée en plus de 150 ans.
Si la forêt française continue sa croissance, ce n'est pas de façon naturelle. Depuis que l'homme en est capable, il ne cesse de façonner son environnement et donc les forêts qui l'entourent. Avec, selon les époques bien sûr, des impératifs souvent économiques. La forêt métropolitaine appartient pour l'essentiel, 75%, à un peu plus de 3 millions de propriétaires privés. Le quart restant est géré par l'Office national des forêts pour le compte de l'État et des collectivités territoriales. Dans l'optique de la défense de la planète, la préservation des forêts est un enjeu majeur. Pendant la dernière conférence mondiale sur le climat, la COP26, plus d'une centaine de dirigeants se sont engagés, par le biais d'une déclaration de Glasgow, à mettre un terme à la déforestation d'ici 2030. Même le Brésil, de Jair Bolsonaro, s'est engagé.
Repito, minha mensagem a todos que participam da COP26 e ao povo brasileiro.
En France, la forêt est naturellement utile, économiquement, mais aussi écologiquement. Elle constitue le premier puits de carbone dont elle piège 80 millions de tonnes chaque année, à comparer toutefois avec les 465 millions de tonnes émises. Naturellement, la gestion des forêts françaises fait aussi l'objet de critiques. Certaines associations estiment que le productivisme prend trop souvent le pas sur l'écologie.
On pourrait gérer la forêt autrement. Et même si ça n'a pas une énorme valeur économique forte, ils ont une valeur écologique importante. Et la valeur écologique, elle va permettre, sur le long terme, de continuer à produire du bois.
Dans quelques jours, le gouvernement rendra public les conclusions des assises de la forêt et du bois en restituant les propositions de 4 groupes de travail réunis depuis l'automne. La forêt française à la croisée des chemins, c'est un reportage de Manuel Ruffez avec une prise de son d'Olivia Branger.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
La forêt française est malade. Elle est malade du réchauffement climatique. Il y a la hausse des températures, il y a le manque d'eau, il y a aussi l'excès d'eau sur des périodes très courtes, et puis il y a ces maladies, ces insectes qui se développent parce que les hivers ne sont plus assez rudes. On va aller en faire le constat dans une forêt de l'est de la France, au pied des Vosges. Où on est là, alors, très précisément?
Là, on est parcelle 7 de la forêt domaniale du Chérimont.
Du Chérimont. Alors cette forêt, elle est où? Dans le département du Haute-Saône?
C'est le département de Haute-Saône, en périphérie du massif des Vosges.
Grand espace?
Oui, c'est une forêt assez grande, hein, 700 hectares, qui appartenait à l'origine au comte de Montbéliard. Lilian Duban, je m'occupe de l'adaptation des forêts au changement climatique pour l'Office national des forêts en Bourgogne-Franche-Comté. Le rôle de l'Office national des forêts, c'est de gérer les forêts publiques, qui sont des forêts soit domaniales qui appartiennent à l'État, soit qui appartiennent aux collectivités, aux communes, aux départements. Ici, on est dans une forêt domaniale, donc qui appartient à l'État. Donc, de gérer les coupes, les travaux, tout ce qui peut se passer dans cette forêt.
S'enfonce un peu. Et alors, ces arbres, tout autour de nous, c'est quoi comme essence?
Donc là, on est face à des hêtres.
Des hêtres, d'accord.
C'est des feuillus, c'est l'hiver, ils n'ont plus de feuilles là. Et avec le ciel bleu derrière, on pourrait avoir l'impression que tout va bien, mais c'est pas le cas.
Oui, c'est ça, on a de la chance, on a du beau temps. J'ai vu un peu de neige sur le bord de la route, là, il a dû faire froid là, ces derniers jours. Là.
Un petit coup de neige ce week-end dernier.
Le hêtre, ça sert à quoi?
Alors le hêtre, c'est un bois intéressant, hein, qui servait beaucoup pour l'ameublement. Par exemple, les chaises qu'on a tous connues à l'école avec les plateaux incurvés, c'est du plaquage de hêtre. Les petits bâtonnets qu'on a quand on mange une glace, c'est aussi du hêtre. La spatule qu'on a pour faire la cuisine, le pied de nos chaises, voilà.
D'accord, très utile alors pour l'industrie, pour cette filière bois, quoi.
Oui, c'est un bois qui est intéressant.
Et c'est un bois qui est très représenté en France?
C'est effectivement un arbre qui est très représenté, en particulier dans le nord-est de la France.
C'est quoi ses particularités?
Les caractéristiques du hêtre, c'est normalement un feuillage qui est assez dense et qui fait que dessous, c'est très sombre. Mais ça c'était jusqu'à il y a quelques années.
Vous êtes capable de distinguer à l'œil nu les hêtres qui souffrent du réchauffement climatique.
Même si c'est en hiver et que c'est pas le plus facile, on peut très bien voir qu'il y a certains arbres, comme celui-ci, juste là.
Celui qu'on a devant nous,
voilà.
Très grand là.
C'est ça, il est très grand. Donc
il est immense. C'est l'un des plus grands de... autour de nous quasiment.
Là, c'est des arbres qui se rapprochent de 30 mètres, donc qui ont bien poussé jusque là. Je crois que c'est une forêt qui est ancienne, ce que je vous disais. Donc ça fait plusieurs générations de hêtres qui poussent dans cette forêt, dans des bonnes conditions. Et là, on voit qu'on arrive en limite. Parce que sur l'extrémité des branches, il n'y a presque plus de petites branches. Et c'est sur ces petites branches que sont fixées les feuilles. Donc si c'était l'été, il manquerait plus de la moitié des feuilles sur cet arbre. Donc c'est vraiment un arbre qui est en souffrance. Voilà, on voit qu'il y a toute une partie qui est morte.
Ça poussera plus.
Alors bien sûr, il reste quelques bourgeons qui peuvent redémarrer. Mais il faut voir que, voilà, année après année, les sécheresses de 2018 à 2020 ont fragilisé les arbres. Et pour repartir, ça nécessite de l'énergie. Et quand on a moins de feuilles, forcément, on peut moins faire de photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce qui permet de nourrir les arbres à partir du CO2 qui est dans l'atmosphère et de l'énergie qui provient de la lumière. Et s'il y a moins de possibilités de capter ce soleil, il y a aussi moins de possibilités de se nourrir, donc moins de possibilités de se redévelopper derrière. C'est un peu un cercle vicieux.
Celui-là, il a quel âge, par exemple? Venez, vous savez estimer son âge?
Il a entre 100 et 120 ans. Voilà.
C'est un pic vert?
Alors, un pic.
Un pic.
Je ne saurais pas vous dire dans la famille des pics. Hein, mais...
Il y a du résineux, là, non?
Oui, il y a des sapins.
D'accord.
C'est normal, on est en transition entre la plaine et les Vosges. Donc c'est pas étonnant. Et c'est vraiment majoritairement du hêtre avec un peu de chêne dans cette forêt. Et c'est ce hêtre qui est dans un état qui est quand même préoccupant. Là, on est toujours là, on était dans la parcelle 7 tout à l'heure. Là, c'est la parcelle 6 et la parcelle 5.
6 à droite, 5 à gauche. Oui. Mais alors, ici, là où on est, 70 à 100% des arbres
sont dépérissants. Alors, ils sont pas morts, mais ils sont dans un stade qui est quand même un peu délicat pour eux. Voilà, on peut espérer qu'ils reprennent le dessus, mais c'est sûr que la totalité des arbres ne sera pas capable de reprendre le pas. Il va y avoir de la mortalité. Il y a déjà de la mortalité, mais ça va s'accentuer.
Et sur la totalité du massif forestier, là, de cette forêt-là, c'est combien le pourcentage?
Sur cette partie-là, d'arbres qui a une centaine d'années, c'est de l'ordre de 60-70% en moyenne.
C'est-à-dire qu'on peut perdre plus de la moitié de cette forêt-là?
Si on se retrouve de nouveau dans des conditions difficiles telles qu'on les a connues de 2018 à 2020, le phénomène peut s'accélérer. Alors ça ne va pas être en une année, bien sûr, hein, mais ça veut dire que sur une plage de 10 ans, c'est possible qu'on perde la majorité de ces arbres. Là, c'est un tracteur qui passe. Hein.
Ah oui, ça a été là.
Bonjour. Aujourd'hui, j'accompagne des journalistes de France Inter. On fait un reportage sur le dépérissement du hêtre.
D'accord.
Voilà.
Vous travaillez dans le bois là, vous...
Ouais, je fais deux choses. Je travaille à l'usine, puis à côté, en même temps, je suis exploitant forestier.
Vous venez abattre
Voilà, là aujourd'hui, là, je fais que d'abattre ce que j'avais acheté ici. Donc j'abats tous les arbres debout et puis après, j'irai faire des stères après, quoi.
Et alors, ça vous fait quel effet, vous, de voir la forêt dépérir, un peu de réchauffement
C'est vrai que plus ça vient, plus on voit que le bois, il s'abîme, quoi. On voit que même les gros hêtres et tout, on voit que ça... Le réchauffement, c'est pas bon. En plus, je suis deuxième adjoint à la commune de Magnanigon, c'est moi qui m'occupe des bois, on voit que les bois, voilà, quoi, c'est pas bon du tout, quoi. On garde même, nous, pour replanter du bouleau, des choses comme ça, parce qu'en fait, on voit même les hêtres, les chênes, tout disparaît, quoi. On sait même plus, on dit des fois du Douglas, On dit qu'on va repiquer plusieurs choses parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va reprendre vraiment. Quoi.
Et du coup, d'un point de vue économique, j'imagine que vous y perdez un peu, non?
Oui. Le hêtre se vend beaucoup moins cher qu'avant. Le chêne se vend bien, mais après, le reste, c'est sûr que si on fait des plantations de bouleau, tout le bouleau, ça ne vaut pas. En termes d'économie, ça vaut rien. Quoi. Ça vaut rien du tout. Il y a des fois, on dit ouais, il est peut-être abîmé, puis dedans, il est peut-être beau, puis en fait, il ne vaut rien. Il y a des fois, il n'est pas si abîmé que ça, quoi, mais c'est. On ne sait pas, quoi.
Tant vous coupez, vous ne savez pas.
Non. Tant qu'il n'est pas vraiment abattu, on ne peut pas voir, quoi. C'est seulement quand il est abattu qu'on voit comme il est, quoi.
Là, vous allez en abattre un
hein? Oui, j'en ai abattu le côté là-bas, oui.
Je peux vous demander, ça ne vous embête pas, de me donner votre nom, votre prénom
Coulon Ludovic.
Coulon Ludovic.
Voilà.
D'accord. Et vous êtes deuxième adjoint
Deuxième adjoint de Magnanigon, la commune de Magnanigon.
personne qu'on a rencontrée tout à l'heure qui vient d'abattre un hêtre, effectivement. L'arbre vient de chuter et je pense qu'il est en train de dégager la tronçonneuse toutes les branches autour. Et il va s'attaquer à un deuxième arbre.
Alors là, ces arbres ont déjà été marqués.
Ah oui,
là, il peut abattre que ceux qui ont été marqués.
Là, on est bien, là. On est au soleil.
Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus du tout d'arbres. En fait, c'était des épicéas qui étaient là avant. Tous ont été coupés, donc là, on repart de rien. Et là, on est sur un dispositif expérimental. Et là, on se pose la question de qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Comme l'idée, c'est de travailler avec un maximum de diversité en forêt et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on a besoin d'un certain nombre d'espèces à utiliser. Sauf que là, on en a de moins en moins, parce qu'on a eu l'attaque sur l'orme avec un champignon, la graphiose, donc plus d'orme. La calarose sur le frêne, également un champignon qui a été apporté par la mondialisation. Là, des difficultés liées au climat sur le hêtre, sur l'épicéa, donc ça fait de moins en moins d'espèces alors qu'on voudrait en avoir plus. Et l'idée de ce projet de recherche participative, donc là on est sur un îlot d'avenir, qui se rattache au projet de recherche national Espérance, c'est de tester des nouvelles espèces qui sont en théorie plus adaptées au climat futur et de voir d'ici 10 à 20 ans si elles se sont bien adaptées au climat ici et donc aux forestiers qui auront à faire des choix dans 10 à 20 ans, de dire voilà, peut-être qu'on a des nouvelles cartes qu'on pourra utiliser, on espère qu'il y en aura un certain nombre, mais en tout cas, tout ne va pas fonctionner.
Lilian Duban, vous nous disiez, psychologiquement, pour vous, pour vos collègues, c'est difficile cette période.
Ah, c'est sûr, cette période où on voit beaucoup d'arbres qui dépérissent et beaucoup d'arbres qui meurent aussi, c'est difficile, hein, parce que c'est des métiers de passion, hein, donc quand les choses vont mal pour la forêt, c'est difficile à vivre pour les collègues, pour l'ensemble des forestiers d'ailleurs. Et ce qui est aussi difficile à vivre, c'est de voir comment est-ce qu'on, quand on se projette dans le futur, on va dans des conditions qui vont être encore plus difficiles. Là, on n'est qu'au début et au premier signe de dépérissement. En même temps, il y a encore des choses à faire, donc on peut se mobiliser pour agir. Et en tant que société, on peut aussi se mobiliser pour agir. Parce que même si les forêts captent beaucoup de CO2, elles ont un rôle d'atténuation, mais en même temps, il faut qu'elles soient dans de bonnes conditions pour pouvoir le faire. Et pour ça, il ne faut pas trop les stresser, donc il faut essayer de limiter au maximum le réchauffement.
Confrontés en première ligne aux ravages du réchauffement climatique, les agents de l'ONF ont manifesté leur colère et leur lassitude en mars dernier. Ils étaient 15 000 en 1985, ils ne sont plus que 8 400. Et le contrat d'objectifs passé avec l'État prévoit un total de 475 suppressions de postes d'ici 2025. Pourtant, la préservation de la forêt est cruciale pour l'équilibre environnemental du pays. Pour en comprendre l'enjeu, Manuel Ruffez a rendez-vous avec François Morneau, conseiller technique de l'inventaire forestier à l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Bien connu pour ses cartes, chères aux randonneurs, cet établissement public, qui emploie quelques 1500 agents, a pour vocation d'observer, mesurer et décrire le territoire, notamment en fournissant des données souveraines à l'État.
Voilà, c'est là, c'est ce grand bâtiment, 73, Institut national de l'information géographique. Bon, on va rentrer.
Bonjour.
Bonjour, enchanté. Bienvenue à l'IGN.
Enchanté.
François Morneau.
Eh ben, on vous suit.
Eh ben, c'est parti.
Bonjour.
Je demanderai une pièce d'identité, s'il vous plaît, je vous la rends.
Pas les suites. Au fond.
Première source d'information pour décrire le territoire, des avions qui survolent la Terre, la France, et qui prennent des photos.
Allez, allons-y. Alors, où est-ce qu'on peut s'installer pour être un peu au calme?
On va pouvoir s'installer entre les deux premiers bâtiments de l'IGN, et il y a une petite esplanade, on sera en plus dehors, on profitera du beau temps.
L'espace extérieur, super.
Alors, je m'appelle François Morneau et je travaille à l'IGN au sein de l'inventaire forestier national. L'inventaire est chargé de décrire les forêts françaises sur les territoires métropolitains.
Pour commencer, la superficie de la forêt en France, elle est importante?
Elle est très importante. Elle couvre 31% du territoire, c'est-à-dire 17 millions d'hectares en forêt métropolitaine. C'est extrêmement important. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une partie de forêt qui est dans les DOM-TOM et en partie en Guyane. Là, il y a aussi 8 millions d'hectares. Donc il y a en gros 50% de nos forêts qui sont dans les DOM-TOM. Sur ces 30% de forêt, on a une bonne partie de cette forêt qui est relativement nouvelle et qui n'existait pas il y a encore 150 ans.
la forêt française, elle a été presque doublée en plus de 150 ans.
Et on l'explique comment ?
Par plusieurs phénomènes qui se sont conjugués. Il y a eu la déprise agricole. Les gens ont quitté les territoires ruraux pour aller dans les villes et les terres ont été recolonisées petit à petit par la forêt. Il y a eu aussi également des politiques volontaristes de plantation de forêt, mais ça c'est plutôt dans les années 50-60. Et ces phénomènes-là se continuent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'est pas terminé, la forêt continue à gagner de la surface chaque année.
Et par rapport aux autres pays européens, justement, on en parlait, on est placé en quelle position, vous le savez ça ?
Alors en termes de surface, on n'a pas la surface la plus importante, mais en termes de stock de bois, on est le troisième pays en Europe.
Stock de bois.
C'est-à-dire le volume de bois, on est le troisième stock après l'Allemagne et la Suède. Et notre stock augmente plus vite que dans ces pays-là. Évidemment, il y a des essences qui sont largement dominantes, et les deux principales essences dominantes en France, ce sont nos deux chênes, le chêne sessile et le chêne pédonculé, qui couvrent des surfaces importantes, mais il faut savoir qu'il y a plus de 12 essences qui couvrent plus de 100 000 hectares en France. Donc c'est considérable.
Et ces 17 millions d'hectares, ils nous ramènent à une période précédente dans l'histoire de France ?
Je ne saurais pas dire exactement à quand il faut remonter pour retrouver ces 17 millions d'hectares, mais c'est sans doute au bas Moyen-Âge ou sans doute avant. Parce que les grands défrichements en France et en Europe, c'était notamment sous l'influence des moines en Moyen-Âge.
À qui appartiennent ces forêts françaises ?
Alors en France, la propriété forestière, elle est essentiellement privée, elle est aux trois quarts privée. La forêt privée est largement dominante en France et elle a eu tendance à s'accroître dans le temps.
Mais elle appartient à des grands gestionnaires d'espaces forestiers, des exploitants peut-être forestiers, ou elle appartient à une myriade de petits propriétaires ?
Alors elle appartient effectivement, alors il y a quelques exceptions avec des grands propriétaires forestiers, mais il y a surtout énormément de petits propriétaires. On considère en France qu'il y a plus de 3,3 millions de propriétaires forestiers. Et parmi ces 3,3, il y en a 2 millions qui ont moins d'un hectare. Donc c'est des tout petits bouts de parcelles. Et on suppose, et c'est sans doute réaliste, que beaucoup de gens ignorent à peu près qu'ils ont des forêts, et même s'ils le savent, où elle est précisément.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La Fédération nationale des communes forestières représente 11 000 collectivités territoriales, principalement des petites communes. Pour celles-ci, la forêt n'est pas qu'un lieu de promenade, mais bel et bien une source, parfois la seule, de revenus. Depuis quelques années, elle se préoccupe de ce que les forestiers appellent la crise des scolytes, des larves de coléoptères nichées sous l'écorce qui attaquent et dégradent le bois. Celui-ci perd alors sa valeur marchande. La crise a commencé dans l'est du pays. On retrouve donc Manuel Ruffez et Olivia Branger dans le Jura, accueillis par le maire d'une commune forestière.
Interception.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la gare de Frasne.
Sur France Inter.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Ouais, bon, on s'attendait pas à trouver toute cette neige.
Ah bon, non, mais on vous a amené dans des villages enneigés et froids.
On est à quelle altitude là ?
On est à 900 mètres.
900 mètres quand même, d'accord.
Mètres, oui, 900 mètres.
Oh, ok.
Puis on a eu un petit peu de neige ce matin, rien. Ouais. Et les températures normales, on a 0, moins 1. Mais on est dans un coin, on est près de Mignovillard, où ils ont parlé de le village le plus froid.
D'accord.
Pompe froide, on va passer tout à l'heure. Et puis près aussi de Mout.
Ah ben oui, Mout, voilà. Bien sûr. Voilà. On va aller voir tout ça.
Allez. Donc, Michel Bourgeois. Je suis maire d'une petite commune du Jura, Entre-deux-Monts, 160 habitants, une commune forestière, 250 hectares de bois. Ce sont les revenus principaux de la commune. Sinon, je suis président de l'Union régionale des communes forestières Bourgogne-Franche-Comté. Là, on est dans la forêt communale de Sansot, donc juste à la limite du département du Jura et du Doubs.
Vous, maire d'une commune forestière, ça vous fait quoi de voir vos forêts qui dépérissent un peu à vue d'œil comme ça ?
Ah ben, ça nous plaît pas du tout, parce que, surtout, bon, déjà, on est attaché à nos forêts, parce qu'on a une culture forestière, et puis, les communes ont été très impactées par ces pertes de recettes, parce qu'en fait, les communes, elles sont dépendantes sur leurs recettes de fonctionnement, entre 20 et 40% sur les petites communes. Moi, pour ma commune, par exemple, c'est le seul revenu, la forêt. On n'a pas d'autres revenus.
Et vous avez perdu combien
On a perdu recettes, on avait des recettes annuelles de à peu près de 80 000 euros, on est passé à 40 000 euros.
Donc ça affecte complètement le fonctionnement de la commune.
On n'arrive même pas à équilibrer le fonctionnement. C'est pour ça que nous avons demandé des aides à l'État pour nous aider à fonctionner.
C'est une forêt, j'imagine, que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, enfin que vous avez vu grandir. Donc il y a une espèce d'attachement viscéral, j'imagine, des habitants de la commune à ces forêts.
Les habitants de nos petites communes sont très attachés à la forêt parce que, bon, ce sont généralement des fils d'agriculteurs, puisque c'était des communes qui étaient complètement agricoles. Moi, par exemple, je peux donner mon expérience. Mon papa est agriculteur. En plus de sa petite ferme qui ne faisait pas vivre à l'époque, parce qu'on n'avait pas le comté qui est bien payé comme maintenant. En plus de ça, donc on allait dans le bois, on allait au bois. On allait couper du bois pour se faire un peu d'argent. Donc moi, j'ai pas été à l'école forestière, j'ai pas fait d'études spécialement pour la forêt, mais par contre, j'ai toujours vécu dans la forêt, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand des maladies attaquent la forêt, ça nous fait mal, comme si c'était à nous, quoi.
Ouais, c'est verglacé dessous, hein. Ouais. Faire attention. Et c'est surtout parce que c'est fil. Mais vous, par exemple, ou peut-être que vous avez d'autres exemples, avec des recettes divisées par deux, ça vous empêchait de faire quoi? De faire des travaux que vous aviez prévus, d'entretenir certaines...
Ça nous empêche d'investir. Parce qu'en fait, voilà, les revenus de la forêt, on en a une partie qui passe en fonctionnement, puis une autre partie pour investir. Alors, ça va être un investissement sur les bâtiments communaux, sur la voirie, des travaux qui ne sont pas réalisés. L'an passé, par exemple, aucun investissement sur la commune.
Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le patrimoine se dégrade. Et il faut pas que ça dure trop longtemps.
Vous aviez des gros projets en vue ou...
On avait des gros projets. On avait surtout un projet du réseau d'eau, refaire le réseau d'eau, qui avait 60 ans. Donc ce projet, il a quand même été réalisé, mais avec un emprunt de 220 000 euros qu'il faut rembourser aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que c'est compliqué.
Vous tirez la langue pour rembourser l'emprunt.
Oui, exactement. On tire la langue pour rembourser les prêts.
Là, par exemple, il va être bientôt attaqué par les scolytes.
Celui qu'on a juste devant nous.
Celui qu'on a devant
nous. Donc c'est un épicéa.
C'est un épicéa de 30-35 mètres qui fait 4 mètres cubes. Et on voit qu'il y a des décollages d'écorce quand on voit le tronc.
Par rapport exact. À... Il est moucheté. Enfin,
il est moucheté, c'est ça. Ça oui, ouais. Il est moucheté, ça veut dire que les scolytes sont dedans et puis ils attendent des températures un peu plus élevées pour se développer. Les scolytes, en fait, c'est un petit peu comme les abeilles, les scolytes. Ils sont sous l'écorce et ils sortent, ils commencent à se développer quand la température est à 15 degrés.
D'accord.
Et donc là, on ne peut pas savoir comment se présentera l'année 2022, puisque en ce moment, les bêtes, elles dorment. Voilà. Et on ne sait pas combien elles seront, combien elles auront résisté au froid. Et on va commencer à voir les attaques en mars-avril. Au moment de la sève, parce qu'en fait, le scolyte, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que la sève monte et il consomme la sève, ce qui fait qu'il assèche les arbres. Un bois de 4 mètres cubes, de 40 mètres, il peut être sec en 3 semaines. Alors la valeur marchande de ce bois-là, actuellement, comme il est en ce moment, là, il vaut 90 euros du mètre cube. Quand il est scolyté, il en vaut 35 euros.
Trois fois moins.
Ouais, c'est pour ça que voilà, il y a cette répercussion sur les recettes forestières des communes. Voilà.
Donc c'est une forêt comme ici, c'est vraiment typique là de l'endroit où on est, c'est de l'épicéa partout.
ce sont des forêts, là, donc quand elles sont monospécifiques, hein, ce qu'on appelle une seule essence, comme là, ici, c'est vraiment à dominante épicéa, elles sont beaucoup plus attaquées par les scolytes. On a déjà, justement, quelques pistes pour la suite. C'est-à-dire, il faudra, avec le réchauffement climatique, il va falloir avoir des forêts qui soient plus mélangées et avec beaucoup moins de volume à l'hectare que maintenant.
Voilà. Et ça, c'est une solution
C'est pas le cas d'ici, c'est des forêts régulières ici, mais c'est ce qu'on appelle des futaies jardinées. Futaies jardinées, ça veut dire, hein, c'est un jardin. On a dedans des épicéas, des sapins, des hêtres, des frênes. On appelle aussi forêt mosaïque.
On vient d'arriver sur le site de la Scierie Chauvin. On est sur la commune de Mignot-Villard dans le Jura. Et c'est assez spectaculaire rien qu'en arrivant ici parce qu'il y a des tas de bois. Alors, ce ne sont pas des grumes, on nous a expliqué, ce sont des billons de bois parce qu'ils sont déjà calibrés, ils sont coupés sur une longueur de 4 mètres. Et il y a les grues là-bas qui saisissent les billons et qui les mettent sur cette chaîne. Et ça rentre dans la scierie qu'on va aller visiter, rencontrer le propriétaire de la scierie qui va nous expliquer notamment les conséquences économiques de ce réchauffement climatique.
Fabrice Chauvin, je suis directeur de la scierie Chauvin. Je gère la scierie avec mon frère Stéphane qui lui est président. Et on a deux autres filiales qui font de la transformation de bois, qui font du bois collé.
Vous êtes la combien de générations là? Vous êtes
quatrième génération.
Quatrième génération de scieur.
C'est ça.
Chauvin.
Tout à fait.
Et ben on va vous suivre. Vous nous faites visiter alors?
Oui.
On va aller jeter un coup d'œil. Okay.
Donc on a une scierie qui est constituée de deux lignes de sciage. Une ligne de sciage pour les billons de petit et moyen diamètre et une ligne de sciage pour les gros billons, les gros bois, à droite.
À droite. Donc on voit sous nos pieds les billons rentrer.
Oui.
Et on imagine que la balle...
Et après, on a deux machines qui se trouvent derrière.
Qui sont dans l'enfilade.
Qui sont en enfilade. Et à la sortie, vous avez le sciage qui ressort, qui est déjà, comme vous le voyez, sur les caméras, sur les écrans.
Sur laquelle?
Sur la caméra en bas à droite, vous voyez, on voit où il y a du rouge là, vous voyez les cierges qui tombent.
Oui, voilà. D'accord. Donc là, on a fait comme ça ressemble à des...
C'est des chevrons, ou des bastins, ou des madriers, des éléments de charpente pour faire des charpentes de bois.
Et là, à droite, on voit des planches.
Des plateaux, des planches. Au total, on scie environ entre 1000 et 1200 mètres cubes de billons par jour. Ce qui représente à peu près une trentaine de camions en entrée.
Tous les jours.
Tous les jours. Et ce qui représente à la sortie... environ entre 13 et 17 camions de sciage, 7 camions de plaquettes. La plaquette, c'est les déchets qui ont été broyés, qui sont destinés à la papeterie pour l'instant, pour faire de la pâte à papier, et environ 5 à 6 camions de sucre.
Comment traverser cette période d'un peu de crise, d'incertitude, de réchauffement climatique? Comment ça se passe pour une scierie comme la vôtre?
Alors, on a eu deux crises récentes, la crise du scolyte et la crise sanitaire. La crise du scolyte qui est arrivée chez nous à peu près en 2018, elle se traduit essentiellement par beaucoup de bois qui sont vendus sur le marché et du bois avec des qualités qui vont se détériorer. Je ne dis pas que le scolyte, c'est le bois de mauvaise qualité hein, au début quand il est pris frais, mais... petit à petit, il se dégrade très rapidement. Et puis, mars 2020, on a eu la crise sanitaire COVID. Qui est arrivée, donc qui a fait peur à nous comme à tout le monde, hein, puisqu'on a tous arrêté quoi, hein, économiquement. Donc, on a tous des emprunts sur le dos, on a tous des choses à rembourser. Bon, très vite, on s'est rendu compte, dès le mois de fin avril-mai, finalement, que ça avait un peu l'effet inverse. C'est qu'on voyait le carnet de commandes qui montait, qui montait, qui montait. En fait, si on reprend un petit peu l'historique, les gens qui sont restés chez eux ont bricolé un peu à la maison chez eux. Ils sont tous allés... acheter du bois pour refaire la terrasse, la barrière, ou etc., etc. Et donc, ça a créé du travail, contrairement à d'autres secteurs d'activité qui ont été fortement impactés par le Covid. Il y a eu ensuite les plans de relance qui ont été faits par l'État français et par d'autres, qui ont fait que finalement, on a vu nos carnets de commandes, nous, pour l'instant, qui se sont multipliés par deux ou par trois par rapport à l'avant-crise.
Je ne vous ai pas demandé votre chiffre d'affaires, vous pouvez le communiquer dessus.
On fait 30 millions de chiffre d'affaires
30 millions annuels.
En 2021, on fait un peu plus de 30 millions, oui.
Et votre marge, on peut la connaître ou pas?
Mais on va dire que les meilleurs d'entre nous, effectivement, ont réussi à faire des marges à deux chiffres. Si on a bien gagné notre vie depuis 2 ans, on n'a pas caché, on l'a volé à personne. Voilà, c'est normal qu'on fasse, qu'on ait récompensé notre fuite de notre travail avec le risque qu'on a pris. Pour moi, c'est normal, c'est un juste retour.
Merci beaucoup pour votre franchise.
À votre service, merci d'être venu nous voir.
On en a fait une cartographie assez précise, état de santé, état des lieux. On va maintenant en mesurer le poids économique de cette filière forêt-bois, un poids économique qui n'est pas négligeable. On est dans le 11e arrondissement de Paris, on a rendez-vous au comité stratégique de cette filière bois.
Bonjour. Olivier Abranger, Manuel Ruffès, France Inter.
Enchanté.
Enchanté.
C'est la première fois, oui.
Alors, c'est un immeuble qui appartient à l'Ameublement Français, hein, qui est une des composantes importantes de notre filière et qui rassemble de nombreuses organisations de la filière.
Un peu interprofessionnel.
Ah oui, un peu interprofessionnel. Il y a notamment FBIE, c'est-à-dire l'interprofession de l'aval. Il y a FBF, l'interprofession de l'amont. Et puis, donc, l'Ameublement Français, l'UICB, les panneaux. Donc, il y a quand même un certain nombre d'outils et de syndicats et de professionnels qui sont là, ce qui nous permet de mieux travailler ensemble.
Alors, donc, Luc Champmasson, je suis donc le président du comité stratégique de filière bois au sein du Conseil national de l'industrie.
Puisque vous avez cette vision globale sur toute la filière, vous allez nous aider à en mesurer le poids économique. C'est un poids très important, effectivement.
Oui, c'est un poids très important et méconnu. Donc, la filière fait 60 milliards de chiffre d'affaires et surtout l'emploi, 400 000 emplois. Hein, voilà, et notamment dans les années 2018-2019, elle a créé encore 20 000 emplois. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en capacité de répondre aux besoins économiques de la France, c'est-à-dire de créer des emplois. Et je vais vous dire qu'elle a une activité économique actuellement qui est très porteuse.
Je lisais qu'il y avait plus d'emplois que dans l'industrie automobile, effectivement.
Automobile, je crois que ça doit être dans les 290 000 actuellement. Donc on est bien au-delà, on est une filière très importante en termes d'emplois. Mais comme on a des trous dans la raquette, hein, dans l'industrie du bois, c'est-à-dire que l'industrie, elle a besoin de bois qui soit séché, collé, contre-collé, lamellé-collé, qui vont permettre de le transformer dans ces usines avec des robots qui ont besoin d'une précision. Hein. Il ne faut pas que le bois se fende, il ne faut pas que le bois travaille et autres. C'est ces éléments que nous allons pour l'instant, parce qu'on n'a pas les capacités industrielles encore en France, on va les chercher en Allemagne, en Scandinavie, en Autriche et autres. Voilà. Et c'est là qu'on a été un peu écouté par le gouvernement, c'est-à-dire qu'on a dit, il faut nous aider. Si vous voulez, on peut créer de la valeur ajoutée, on peut créer des emplois, mais il faudrait que vous nous aidiez, comme vous aidez d'autres filières. Voilà. Alors, premièrement, on a été dans le cadre du plan de relance, oui, correctement. Et puis, le Premier ministre nous a donné 100 millions cet été. Le président de la République, dans le cadre de France 2030, nous a donné 500 millions. Et bientôt, les arbitrages auront lieu, voire dans 15 jours, comment on va utiliser ces 600 millions. Donc, on pense qu'il faut privilégier le retard que l'on a en industrie, et c'est là qu'on amènera davantage de valeur ajoutée, qu'on évitera les importations, qu'on créera des emplois.
Quand on met face à face ces 400 000 emplois, ce chiffre d'affaires très conséquent, et le déficit de la balance commerciale, qui est le deuxième déficit de la balance commerciale en France, c'est là qu'on a du mal à comprendre effectivement pourquoi ça dysfonctionne.
Alors, le déficit, il est principalement dans pâte à papier, qui est quand même un secteur très particulier, sur lequel on n'a plus que 4 ou 5 usines en France, qui ne sont du reste plus aux mains des Français. Donc, puisqu'on n'a pas, je dirais, les outils nécessaires pour faire de la pâte à papier à bon marché, eh bien, on est obligé d'importer. Après, il y a l'ameublement, qui malheureusement a perdu, je dirais, beaucoup de ses forces vives et qui importe beaucoup. Voilà. On avait une industrie assez forte il y a une vingtaine d'années, et puis on s'est fait prendre des parts de marché par les Italiens et autres. Hein. Bon. Et donc, maintenant, il faut reconquérir ces marchés. Autant pour la pâte à papier, hein, je vous l'ai dit, ça ne marchera pas. Autant pour l'ameublement, il y a une volonté de se battre pour recréer en France les unités de fabrication qui permettent de faire ces produits. Donc ça, c'est les premiers points. Puis après, en construction, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 60% des bois composites là, hein, qui sont importés. Et c'est là où on peut, je dirais, là aussi, combler ce déficit. Et là, on peut le faire rapidement.
On voit ce marché qui se développe à grande vitesse, une demande de plus en plus importante pour le bois. On a l'impression que la France a tous les atouts.
Elle a des atouts et elle a des difficultés. C'est-à-dire que quand même, le Français en général n'a pas une culture de la forêt française. C'est-à-dire qu'il aime, il aime sa forêt. Il aime le bois. Mais quand on lui dit « je vais couper la forêt à côté », là, « ah non, là, il ne faut pas toucher ma forêt ». Or, il faut entendre qu'une forêt, ça se doit. Alors, il faut laisser certaines forêts à l'état naturel, et hein, voilà, est-ce que c'est 5, 10%, 15%. Mais après, la forêt, il faut la cultiver, parce que un bois qui arrive à maturité, après, il dégénère, c'est comme nous, hein, et il rejette le CO2. Donc, il faut le couper à bonne maturité et replanter. Et bien sûr, hein, vous savez qu'on a une obligation, nous, en France comme en Europe, nos forêts sont certifiées, c'est-à-dire que dès qu'on coupe une forêt, on est obligé de la replanter.
Couper, cultiver, planter, replanter. C'est sans doute un impératif car l'urgence est là. Le dérèglement climatique à grande vitesse est un choc pour toute la filière. Certaines essences dépérissent à vue d'œil. La forêt française est composée majoritairement de feuillus, 70%, 30% de résineux. Comment intervenir, entretenir, soigner avec toutes les incertitudes liées au temps long? Trouver la bonne ligne de crête entre l'intérêt économique et les enjeux environnementaux. L'association Canopée qui nous emmène maintenant dans les Landes a son idée sur la question. Eux se battent en particulier contre les coupes rases, ces coupes d'arbres qui laissent les sols à nu.
Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Bordeaux-Saint-Jean, le terminus de notre train.
On s'est retrouvé à la gare, on était dans le même train d'ailleurs. On prend une voiture, là vous nous amenez dans les Landes, c'est ça, hein, on est à Bordeaux.
Ben, on prend une voiture, on est à la gare de Bordeaux. Et en fait, on va aller rejoindre Denise qui nous attend dans les Landes, à peu près une heure de voiture, pour aller voir justement une de ces fameuses coupes rases pour lesquelles on est là aujourd'hui.
Voilà. On va récupérer la voiture et puis on va faire cette route-là.
Allez.
Le membre de l'association Léa, la Ronde d'Environnement Attitude, qui a pour but de surveiller un petit peu tout ce qui se passe.
Vous êtes du coin,
dans notre secteur. Voilà, c'est ça. Oui, le local de l'étape avec Denise.
Avec Denise, qui est
la présidente de l'association.
Qui est la présidente de l'association. Voilà. Et c'est vous qui avez repéré un peu les parcelles où on va aller.
Oui, parce que on vit ici, donc c'est pas trop dur. Il y a beaucoup d'activités forestières ici, donc c'est tous les jours qu'on en voit. On subit un peu le choc aussi des transformations des paysages et de l'industrialisation. Oui, on s'y habitue pas.
Et du coup, on va dans des parcelles pas très loin ?
Oui, il y en a une à... Ben, on a passé le chemin, je pensais qu'on allait directement là-bas, mais il y a 800 mètres, donc il y a une coupe de feuillus qui a été repérée, qui a été faite l'année dernière.
Ouais.
Sinon, un peu plus loin, il y a un ensemble de coupes successives qui a été faite. Il y a vraiment une cinquantaine d'hectares à vide actuellement.
Oui. Ok. En tout cas, c'est vrai que c'est joli en arrivant, tu vois. On a croisé tous ces paysages vallonnés où on voit encore des feuillus qui s'accrochent au milieu des plantations de pins et qui essayent de résister un petit peu.
Il faut se dire ici que c'est particulier, ça. C'est pas représentatif de tout le secteur. Dès qu'on passe, on remonte vers le nord et l'ouest. Là, c'est vraiment du pin.
Sur le plateau, sur le sable.
Voilà.
Mais là, on est un peu justement sur la vallée du Ciron.
Voilà.
D'accord. Ben, moi, c'est Sylvain. Sylvain Angerand, coordinateur des campagnes de l'association Canopée Forêt Vivante. Voilà. Et on est là justement parce que nous, on aime la forêt quand elle est belle, quand elle est diversifiée. Et on vient dans les Landes où y a tout un conflit autour de ces fameuses plantations de pins qui viennent grignoter sur ces massifs de feuillus qui restent et qu'on va essayer de préserver avec les habitants, avec des associations locales qui ont fait appel à nous parce qu'ils sont un peu dépassés par ce qui se passe.
Juste une petite remarque sur l'organisation. On s'est un peu planqué là pour que vous revêtiez vos tenues. Vous êtes connu manifestement dans le secteur.
Effectivement, on est connu. Bah, c'est aussi assumé de notre part. C'est-à-dire que toutes nos actions sont à visage public, découvert. On assume tout ce qu'on fait, y compris ce qui est illégal. Pour nous, ça fait partie de créer du débat public qui manque aujourd'hui terriblement. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a des t-shirts verts canopés qui sont repérables de loin. Et tant mieux. Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'effectivement, une fois qu'on sera sur place, sur ces fameuses coupes rases qu'on dénonce, bah, y a des gens qui viennent nous voir, discuter avec nous. Et puis, si c'est pas le cas, bah, nous, on ira le faire.
Est-ce qu'on peut décrire un peu cet endroit où on est, de plein pied, là? C'est rasé.
C'est cette réalité-là qu'on doit toujours un peu forcer dans la filière forêt-bois à faire comprendre, c'est que la plupart des gens qui viennent, qui posent un regard sur ça, ils ne voient pas autre chose qu'un champ de guerre. Alors là, c'est des chaînes. C'est des chaînes qu'on avait. Donc on voit très bien, un peu plus loin derrière, il en reste. Alors c'est sûr, c'est pas la forêt de troncée, c'est pas des arbres gigantesques et magnifiques, mais c'est des arbres qui sont importants, qui ont une grande valeur écologique. Un petit peu plus bas, on a une rivière, le Siron, qui passe. Et en fait, tous ces feuillus, ils permettent de protéger cette rivière, de créer un écosystème en fait, qui va permettre d'avoir énormément de vie, de biodiversité. C'est aussi quelque chose qui nous importe. On est venu passer 2 jours là dans les Landes parce que en coupant tous ces peuplements feuillus, en fait...
Parce qu'il n'y reste plus rien. Ah bah là, disons-le, on n'a pas encore dit, mais...
Là, il ne reste plus rien, mais en fait, c'est...
Des troncs débités, des branchages au sol, des souches...
Non, il reste plus rien. Et effectivement, on voit qu'une parcelle, là. On pourrait se dire que juste cette parcelle, en elle-même, elle ne va pas profondément modifier l'écosystème. Mais en fait, c'est cette parcelle, plus cette parcelle, plus cette parcelle, au fil des ans, qui ont grignoté tous les peuplements feuillus qui étaient au bord de cette rivière et qui font qu'aujourd'hui, en fait, son équilibre même écologique est menacé. Et ça, c'est cette réalité-là que la filière ne veut pas voir, en fait. Pour moi, ça, c'est pas de la gestion forestière. C'est plus proche de l'agriculture que de la forêt. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, on a des peuplements qui vont très mal. Souvent, c'est lié à des pratiques de gestion sylvicole. Mais parfois, effectivement, on va avoir... donc, il faut questionner. Mais parfois, effectivement, planter, venir enrichir des peuplements existants, ça peut être une bonne idée. Mais je vais planter dans le peuplement existant ou dans des petites trouées. Mais pas détruire tout le peuplement existant pour remettre autre chose à la place. Et ça, c'est de la plantation intelligente. C'est un travail fin, c'est un travail d'observation. Et ça, ça n'a pas sa place. Aujourd'hui, ce qui a sa place, c'est qu'on veut faire des tableaux Excel avec des chiffres et on veut parler en nombre d'arbres plantés. La grande ligne de communication du gouvernement, c'est le plan de relance, c'est 40 millions d'arbres plantés. Alors regardons ce qu'ils ont planté. C'est essentiellement du Douglas, un peu du chêne, ça c'est très bien, et du pin maritime. C'est ça qu'on plante, voilà.
Parce que ça va dans les scieries, parce que ça se vend, parce que...
Mais c'est tout le tabou de la forêt. En fait, c'est présenté comme un plan d'adaptation des forêts au changement climatique. En réalité, c'est un plan d'adaptation des forêts aux besoins de l'industrie. Puisque l'industrie du bois, aujourd'hui, elle réclame des résineux. Alors que les 2/3 de la forêt française, en fait, ce sont des feuillus, des chênes, des hêtres, un peu comme tu vois ici. Et en fait... Toutes les scieries qui étaient capables, toutes, la plupart des scieries qui étaient capables de les transformer, s'effondrent. Il y avait 15 000 scieries au début des années 60, il n'y en a plus que 1500. Et c'est pas tant les grosses scieries de résineux qui tombent, c'est toutes les petites et moyennes scieries de feuillus qui disparaissent en silence dans les campagnes. Et si tu as plus ces scieries-là, et ben en fait, derrière, tu transformes tes forêts pour mettre du résineux. Parce que ça, ces scieries-là, elles tiennent. Ce plan de relance, quand on veut planter massivement des arbres en moins d'un an, en fait, c'est juste un plan où... Vous coupez, vous plantez, vous coupez, vous plantez. Et une forêt ne se résume pas à un programme de plantation massive d'arbres. C'est pas ça qui se joue.
Donc là, on a un semi-remorque qui vient de nous passer devant, sur ce tout petit chemin forestier, avec 2 énormes conteneurs. Et manifestement, ce sont les conteneurs qui sont au bout du chemin pour justement jeter les souches dont... responsable de l'association Canopée nous parlait. Le prétexte de tout ça, c'est le réchauffement climatique.
Le prétexte, oui, c'est ça, l'alibi. On utilise le prétexte du changement climatique. Ces peuplements, ils vont mourir. Bah, moi, je pose la question, est-ce que ce peuplement-là, il avait plus de chances de mourir, de dépérir, que les plantations qu'on voit en monoculture, qui sont de plus en plus sensibles aux incendies, où il commence à y avoir des ravageurs qui vont dessus. Et en fait, qu'est-ce qui fait vraiment qu'une forêt va résister ou pas? On le sait maintenant, c'est sa diversité, sa capacité à encaisser des chocs, et donc ça va être justement d'avoir des sols qui sont vivants, qui sont riches, et pas juste où on va tout défoncer en retirant les souches. En réalité, ce qui est complètement faux, c'est de dire que ça va mourir. On n'en a aucune, non seulement on n'en a aucune preuve, et même ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que moi je pense que ce peuplement, il a plus de chances de résister que le peuplement à côté. Sauf que le peuplement à côté de la plantation de pin maritime, elle rapporte de l'argent. C'est ça en réalité qui les intéresse, c'est d'avoir des plantations qui rapportent de l'argent. Peu importe que tout ça, ça se casse la gueule en fait. C'est pas ça, tu vois, ils ont une vision très court-termiste. Mais on pourrait gérer la forêt autrement. Et même si ça n'a pas une énorme valeur économique, même si ces peuplements, ils n'ont pas une valeur économique forte, ils ont une valeur écologique importante. Et la valeur écologique, elle va permettre, sur le long terme, de continuer à produire du bois. Si tu détruis tout, en fait, tu prends un risque. C'est ça qu'on voit.
La forêt française à la croisée des chemins, c'était un reportage de Manuel Ruffez avec une prise de son d'Olivia Branger. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Cédric Chaplus. Reportage disponible dès maintenant sur franceinter.fr.